Et allez, on remet le couvert. Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Les instants des Bartas.
Ce sont des interviews, des reportages ou des chroniques.
Les lundis et mercredis à 8h30.
Les mardis, jeudis et samedis à 17h.
Ou le vendredi à 11h.
Un créneau curieux de tout.
Qui parle de vous.
Du local et un peu d'autre chose.
Les instants des Bartas.
Sur le 107FM.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à toutes et tous, vous êtes bien sur Radio Bartas, vous êtes bien sur le 107 et au programme de cet instant des Bartas, nous serons dans un instant avec Mathieu Mercier, l'auteur du livre « Gorges et rivières des Cévennes aux Garrigues, le versant méditerranéen ». Un magnifique ouvrage, on en parle avec lui dans un instant. Mais d'abord, je vous propose d'écouter un groupe qui sera au Festival d'Olt cette année, qui s'appelle Turbo Niglo. Le Festival d'Olt, c'est évidemment le dernier week-end de mai, cette année placé sous le thème de la ruée vers l'Olt. Comme d'habitude, extraordinaire jeu de mots trouvé. On vous en reparlera bien sûr sur cette antenne. Vous êtes bien sur Radio Barta, c'est parti.
Thank you.
Je l'ai entre les mains, le deuxième opus du livre Gorges et Rivières. Le premier, c'était entre Kos et Cévennes. Celui-ci, c'est des Cévennes aux Garrigues. C'est sorti il y a quelques semaines et pour en parler, nous sommes avec son auteur, Mathieu Mercier. Mathieu, bonjour.
Bonjour Ben, merci pour l'invitation, merci à Radio Bartas.
Avec grand plaisir et encore un très très bel objet, on va en parler. Tu seras en conférence et en dédicace à la Maison du Parc ici à Florac le 24 mai prochain. Tu as aussi plein d'actu en fin de semaine, on en parlera en fin d'émission. Merci d'être avec nous si je ne m'abuse. 6 ans séparent la parution de ces deux livres. Bon, au-delà de l'année 2020 qui compte pas pour les raisons qu'on connaît. En même temps, je me dis quand je vois le travail réalisé, c'est fastidieux et long à écrire ce genre de livre. On va voir où est-ce que tu nous emmènes dans un instant. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour la réalisation de cet ouvrage ?
Donc ce second ouvrage, il couvre le versant méditerranéen. Et donc là, on est confronté déjà à un versant qui est beaucoup plus chiffonné que le précédent, avec une ramification, hein, des cours d'eau très ramifiés, et donc un plus grand nombre de cours d'eau, avec des explorations parfois qui sont rendues plus difficiles parce que c'est un territoire plus escarpé et plus grand. Donc le territoire, il s'étend depuis le Vivarais-Cévenol, avec les rivières de la Baume, de la Drobie, de la Tine, du Chazac, de la Borne, jusqu'à la Vis, l'Ar, en passant par les Gardons, l'Hérault, la Cèze. Donc c'est un territoire assez vaste, et la difficulté, voilà, ça a été de couvrir ce territoire large et d'avoir une approche aussi synthétique, que ce soit dans les textes et aussi dans les photos.
15 cours d'eau, hein, si je ne m'abuse, couverts pour ce deuxième opus.
Alors 15 cours d'eau plus la mention des principaux affluents de chacun de ces cours d'eau. Donc c'est un petit peu plus. Donc peut-être on est aux alentours de 16, 17, 18, 19 cours d'eau parcourus. Voilà.
Et ça fait un sacré territoire à courir. Mathieu, quelles sont les principales influences ou les inspirations qui t'ont conduit à écrire sur les rivières et les paysages naturels comme ça ?
Voilà, alors quand on se lance dans un projet comme ça, il faut avoir un petit peu quand même des tuteurs, hein, une tutelle, des auteurs qui inspirent. Donc bien sûr, moi j'avais cette lecture de Soro. Et pourquoi ? Parce que dans son texte, notamment Walden, il parle vraiment de la nature ordinaire, s'intéresser aux petites choses qui sont à côté de chez nous et dont parfois on ignore l'existence, à savoir eh bien, simplement les petits insectes, la flore un peu traditionnelle ou un peu, on va dire, banale qui occupe nos cours d'eau. Et puis, puisqu'on parle des rivières, les mammifères inféodés aux eaux courantes et également tout ce qui relève des poissons, etc.
On reviendra sur cette faune et cette flore qui est absolument incroyable.
Et au niveau de l'influence, il y avait également, bien sûr, Martel. Hein, ce géographe qui a souhaité faire qui a détaillé les Causses et les Cévennes, et pour moi ça a été une vraie inspiration. Alors c'est un texte un peu anachronique, dans le sens où lui va être vraiment dans la description très précise géographique, qui, on peut l'imaginer, venait pallier le déficit ou le manque de photographie. À l'époque, on utilisait beaucoup la lithographie, les gravures, et donc il fallait être vraiment dans le détail pour que les gens puissent avoir une image visuelle avec des textes très précis. Et donc ça, pour moi, ça a été aussi une inspiration, mais plutôt avec un dialogue entre les photos et le texte, mais en ayant quand même un texte qui soit assez descriptif.
La majeure partie des photos de l'ouvrage, c'est toi qui les as prises, hein. Il y en a quelques-unes, je crois, qui ne sont pas à toi.
Il y a quelques crédits photographiques du Parc National des Cévennes et aussi d'un ami qui fait des très belles photos qui s'appelle Gary Lérissé et qui est spécialisé dans les photos d'oiseaux. Et je le remercie pour ce passage, et aussi Monsieur Jean Frein.
Alors c'est très poétique, je trouve, ta manière d'écrire, ce qui fait que ce livre est agréable à lire. Comment tu as travaillé l'écriture ? Est-ce que tu as un carnet et que tu notes comme ça quand tu fais tes balades, etc. Ou alors c'est chez toi après tes balades ? Enfin, comment tu as procédé un peu pour l'écriture ?
Je dirais qu'il y a plusieurs temps. Il y a vraiment un temps où sur place, pendant l'exploration, je vais avoir un carnet et je vais noter des petites choses qui me viennent à l'esprit. Parce que l'idée, c'est quand même de donner, de mettre en valeur l'âme de chacune des rivières. Et c'est un petit peu comme si chacune des rivières, si on l'écoute, elle nous parle. Et donc c'est la rivière qui se raconte, et il faut être un petit peu là présent pour la saisir, pour la capter. Donc voilà, ça, il y a quand même sur le moment... il faut avoir un petit carnet pour prendre des notes. Et puis après, pour avoir cette dimension un peu onirique, il faut aussi se rappeler plus tard et avoir un peu une approche un peu synthétique de la rivière, parce qu'on peut pas tout raconter.
C'est clair.
Et donc il faut la raconter un petit peu comme on la rêve. Voilà. Et on peut, il y a aussi là l'inspiration de Gaston Bachelard, hein, L'eau et les rêves, où qu'est-ce qui reste après un passage au bord d'un cours d'eau ? Il y a une dimension un petit peu comme ça, vaporeuse, onirique, de la rivière qu'on vient de visiter.
Ton bouquin propose 93 randonnées, 73 lieux de baignade, 77 points de vue remarquables sur les vallées, 101 monuments emblématiques, et des parcours de pêche, des itinéraires de canoë. Mais ce livre, pour moi, il se distingue d'un simple guide touristique ou naturaliste, je trouve. Alors la question peut paraître simpliste ou simple, mais quel conseil tu donnerais aux lecteurs ou futurs lecteurs pour se balader dans ton ouvrage ?
Voilà, merci pour la question, Ben. Alors, c'est vrai que cette partie-là, on va dire que c'est une partie en plus. C'est le chapitre pour chaque rivière à découvrir. Et donc, c'est pour ça que c'est pas simplement un livre, un guide. Il y a d'abord le récit de la rivière. Et à côté, on peut aller découvrir cette rivière de façon personnelle, intime. Et justement, avec des conseils au niveau des randonnées, des lieux de baignade, les lieux de pêche. L'idée, c'est d'abord peut-être de feuilleter le livre et puis de voir si on est appelé par certaines photographies, par certains textes. Et ensuite, puisqu'il y a pour chacune des rivières une carte, eh bien on peut suivre le récit avec cette carte. Et puis si on est intéressé, aller voir dans les onglets qui s'y prêtent si une randonnée nous intéresse. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Si on a envie de visiter une baignade, ou simplement d'aller jouir d'un panorama, puisque également sont indiqués les panoramas et les sites remarquables, que ce soit les monuments ou les points de vue remarquables.
Alors, tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure. Comment ce livre aborde la question de la biodiversité aquatique et des enjeux environnementaux spécifiques à cette région ?
Voilà, donc l'idée, c'est de parler des rivières. Et donc, on n'oublie pas d'abord que la rivière, elle a besoin d'un socle géologique. Donc, on approche d'abord la géologie. Et ensuite, on parle aussi de la faune et de la flore qui constituent un ensemble. L'idée, c'était pas d'être moralisateur ou de faire quelque chose de trop lourd ou indigeste. Et c'était plutôt de se servir de chaque contexte, de chaque rivière comme un contexte pour évoquer une problématique liée à ses eaux. Donc on va évoquer par exemple la problématique de la continuité écologique à travers les barrages. Là je pense à la rivière du Chassezac. On va évoquer la problématique, moi j'ai appelé ça la ouedisation, hein, c'est vraiment le côté... ces assecs qu'on va rencontrer pendant l'étiage, pendant l'été, sur notamment les Gardons, la Cèze, toutes ces rivières méditerranéennes qui sont caractérisées par justement ce régime très spasmodique qui tend à s'accentuer.
Alors tu es guide de pêche aussi, et donc est-ce que tu peux voir les impacts du changement climatique sur les écosystèmes aquatiques locaux ?
On le mesure simplement en fait par l'expérience, à travers la migration des populations des poissons. Si on parle d'un poisson caractéristique des Cévennes, des eaux vives, on va parler par exemple de la truite, et c'est intéressant d'avoir des emblèmes comme ça pour aussi sensibiliser les populations. Parce que les insectes, bon, on en a besoin, et on en a davantage besoin, mais le grand public est moins sensible. Donc c'est pour ça que j'évoque plutôt la truite. La truite, tout le monde la connaît. Tout le monde dans son enfance a côtoyé des rivières où, juste à côté de chez soi, il y avait des truites. Et effectivement, la truite, c'est un poisson sténotherme d'eau froide, c'est-à-dire qu'elle a une fenêtre d'adaptation qui est assez restreinte et elle a besoin d'eau vive, fraîche et bien oxygénée. Et donc, on se rend compte qu'avec les modifications climatiques actuelles, on a tendance à les retrouver toujours de plus en plus haut sur les têtes de bassin, les truites. Et donc, on ne va pas dire que la rivière est en train de mourir, mais en tout cas, il y a un changement de population. Et elles vont être remplacées notamment par exemple, des espèces qui sont moins fragiles et qui ont une fenêtre thermique légèrement décalée vers les températures hautes. Par exemple, comme un cyprinidé qui sera le chevêne. Et ça, on le mesure, on le voit presque d'année en année.
Alors, évidemment, il y a plein d'espèces. Hein. Il y a les oiseaux, il y a vraiment plein de choses. Je pense qu'on ne va pas pouvoir parler de chaque espèce. Lisez le livre, auditeur, auditrice. Mais il y a un beau chapitre sur la loutre, notamment, qui a été mal perçu, si j'ai bien compris, pendant des années, en fait. Et il y a plein d'idées reçues sur la loutre, notamment le fait que ce n'est pas elle qui fait disparaître les truites, par exemple.
Bon, c'est sûr que la loutre, elle va avoir une consommation de poissons qui est importante. Localement, ici, on se rend compte qu'elle a aussi un effet sur des populations d'espèces invasives qui étaient donc les écrevisses américaines. Et donc, ça va être vraiment facile de remarquer la présence de la loutre grâce à ces carcasses d'écrevisses. Donc, elle a aussi ce rôle de régulation. Et puis, on peut quand même envisager que la truite va s'attaquer aux poissons qui sont un petit peu les plus faibles ou les plus faciles, les proies les plus faciles. Dans tous les cas, la loutre, c'est aussi un emblème des rivières. C'est un emblème qui montre la bonne santé écologique d'un cours d'eau. Et c'est vrai que longtemps, même l'État donnait des primes pour la chasse de la truite, de la loutre. Mmh. Et aujourd'hui, on voit qu'on est plutôt dans la préservation. Et puis, si on doit parler d'un autre espèce emblématique, c'est le castor. Hein, le castor, au début du siècle dernier, il était vraiment complètement en voie de disparition dans les vallées cévenoles et spécialement sur le versant atlantique. Et il n'en restait plus qu'au niveau de la rivière Rhône. Et il y a eu une réintroduction par le parc national et puis ensuite une recolonisation naturelle. Où maintenant, qui a été vraiment efficace, et maintenant on rencontre des castors partout, et c'est aussi un animal emblématique, et on a besoin aussi pour sensibiliser le grand public d'animaux comme ça, emblématiques de la santé des cours d'eau. Et puis à savoir que si on regarde, il y a beaucoup de rivières dans les Cévennes qui s'appellent Vébron, Vibré, etc., qui est l'ancien nom du castor, et ça veut dire qu'il y avait des castors à peu près partout.
Alors forcément, t'as bossé, tu viens d'en parler avec des gens du parc national. Il et elles sont nombreux, nombreuses. Je pense à Ingrid ou encore à Yannick Manche, qu'on connaît bien sur cette antenne. Quel a été le rôle du parc dans cette aventure? Est-ce que c'est un peu la caution scientifique de ton livre?
Alors on peut aussi citer Yann Dissac, etc. Voilà, on peut.
Et Yann Dissac, évidemment.
Voilà,
que j'embrasse.
Il y a de nombreuses personnes qui ont contribuer à cet ouvrage, et donc ça faisait partie du partenariat qui a été noué entre l'association Picasso, le parc national et moi-même, donc, et c'était d'avoir une relecture technique sur les textes, notamment qui traitent simplement de l'écologie, de la faune, de la flore, et pour moi ça a été vraiment un soutien important de dire que voilà, j'étais dans la bonne voie, qu'il n'y avait pas de souci. Et je remercie aussi Ingrid, qui est la chargée éditoriale du parc, qui a été un appui vraiment, qui a facilité l'avancée du livre, dans la mesure où quand on écrit comme ça et on est sur un long projet, un projet au long cours, on a beaucoup de doutes, etc. Et régulièrement, elle me validait, et sa validation pour moi me permettait d'avancer. Voilà, donc je la remercie vraiment pour cet appui et ces encouragements et la confiance qu'elle m'a accordée, quoi.
Parlons un peu du tourisme. Est-ce que le tourisme est un danger pour notre région, selon toi, ou est-ce que tu as l'impression que les gens sont de plus en plus respectueux de cette nature qui nous entoure?
Alors en effet, le tourisme, c'est une question qui est, on pourrait dire, ambivalente. Aujourd'hui, c'est très à la mode et c'est parce qu'on le subit, il y a ce phénomène de surtourisme qui est évoqué un peu partout sur la planète et qu'on peut aussi ressentir ici. Pourquoi je parle d'ambivalence? C'est qu'il ne faut pas oublier que beaucoup des auteurs qui ont écrit sur la nature et les cours d'eau, en l'occurrence, et là je pense par exemple à Martel, mais aussi à Élisée Reclus, étaient des gens qui faisaient la promotion du tourisme. Et on peut voir que dans une certaine mesure, le tourisme a eu des effets de protection. Là, je pense par exemple aux gorges de l'Ardèche. Aux alentours des années 1920, il y avait un projet de barrage au niveau des gorges de l'Ardèche qui aurait noyé en grande partie, quasiment intégralement, Vallon-Pont d'Arc, qui est emblématique de l'Ardèche. Et c'est ce tourisme qui l'a protégé. Alors, C'est pour ça que c'est jamais tout noir, tout blanc. Et effectivement, comment réguler un petit peu un tourisme important qui peut avoir un impact? Et d'un autre côté, c'est parce qu'il y a la valorisation à travers le tourisme que peut-être des élus, des responsables politiques vont prendre des décisions en faveur d'une politique qui permettra une amélioration de la qualité des eaux, surtout dans un territoire où l'importance de la baignade, de pouvoir faire du canoë, participe de l'économie. Donc c'est toujours ambivalent et c'est une question... où il faut faire preuve de nuance.
C'est en ça que ton ouvrage, en fait, il contribue à une meilleure compréhension des enjeux de conservation et de gestion durable de ces milieux, en soi.
L'idée du livre, c'est de donner des éléments au grand public pour à la fois être en mesure de comprendre les enjeux qui se jouent et aussi donner l'amour de la rivière. Et à travers le fait d'aller la parcourir, d'aller la visiter, et de simplement parce que quand on connaît mieux, on aime davantage, et quand on aime davantage, on a envie de protéger. Voilà. Et puis si, par exemple, des décideurs politiques sont sensibilisés simplement à travers le livre à quelques petites questions, enjeux écologiques, et que ça peut peser dans des décisions politiques, et bien voilà, c'est aussi positif.
Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus dans ce que tu as pu voir sur ces dernières années en écrivant le livre ?
Peut-être quelque chose qui est impressionnant, c'est quand même qu'il reste beaucoup de poches un petit peu secrètes, etc. On peut s'attendre à justement, quand on a parlé du tourisme, à que tout soit bondé, etc. Mais si on fait preuve un petit peu d'initiative, si on sort un peu des sentiers battus, on va vraiment trouver des endroits qui sont encore vraiment en état, préservé, aussi parce qu'ils sont difficiles d'accès, donc ils se méritent. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a encore ce genre d'endroit. Et vraiment, le livre ne vise pas à les rendre hyper accessibles, mais simplement à montrer qu'ils existent. Qu'est-ce qui m'a impressionné ? Ça, c'est une question qui m'est difficile.
Finalement, je peux la poser autrement. Ça fait des années que tu travailles dans ce milieu-là. C'est le deuxième livre. Qu'est-ce qui te surprend encore ? Est-ce que tu es encore surpris par les choses que t'offre la nature aujourd'hui ?
Alors, ce qui peut surprendre, c'est aussi un positionnement. Là, j'aimerais faire une citation d'Élisée Reclus. L'histoire d'un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, est l'histoire de l'infini. Élisée Reclus, là, il utilise le thème de l'infini, et ça, c'est un thème qui revient souvent dans tout ce qui a trait au cours d'eau, hein, comme Héraclite, on ne se baigne jamais dans la même rivière, etc. Et moi, j'ai fait appel dans l'introduction à Baudelaire, qui parlait de la mer comme quelque chose d'une vision d'infini, et pour moi, les Cévennes, il y a aussi cette dimension d'infini. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on a l'impression de jamais avoir... découvert, compris l'entièreté de ce qui se joue et de cette boucle infinie de la goutte qui tombe, qui va percer, filtrer à travers la roche, nourrir la rivière, revenir à la mer. Et il y a quelque chose comme ça de fantastique, de fascinant. Et en même temps, se dire que s'il y a une infinie fragilité également. Et voilà, moi je suis encore sensible à ça. Parfois, j'ai pleuré à voir certaines rivières se dégrader. Là, aujourd'hui, j'ai fait un petit peu un travail de... Je ne vais pas dire de deuil, parce que ce serait triste, mais d'avancer, de dire qu'effectivement, les choses changent, la vie remplace. Alors, on voit que c'est un peu tragique d'imaginer que nos rivières ne seront plus celles qu'on a connues étant enfant. Mais la vie trouve un petit peu un chemin, et on voit que toujours, eh bien, d'autres espèces vont coloniser les milieux, etc. Mais bien sûr, c'est aussi de notre ressort de mettre tout en œuvre pour au moins amoindrir ces impacts et les faire, disons, entre guillemets, durer le plus longtemps tel qu'on les aime.
Allons-y pour un petit point agenda, Mathieu, puisque cette fin de semaine, tu seras à Genolac vendredi et au Pont de Montvert samedi. Explique-nous tout.
Alors, c'est vendredi, à partir de 18h, je suis à la librairie Quiroli de Pauline, qui m'a invité pour présenter le livre. Et donc, on fera aussi une petite présentation sur les rivières. Et puis, le lendemain, donc, je suis à Pont-de-Montvert, invité par la bibliothèque du pont de Montvert. Et ça se passera donc au niveau de la salle polyvalente avec une présentation du livre et une petite conférence. Moi, j'appelle ça plutôt une présentation. Et ensuite, suivra la projection du film Dourbi, trouble en eau claire, réalisé par mon amie Lily Espla. Donc là, pour ce livre, pour ce film, moi, j'ai participé à l'écriture des textes en, voilà, des voix off.
Et ça, ce sera à 18h30 samedi. 93 randonnées, 73 lieux de baignade, 77 points de vue remarquables sur les vallées, 101 monuments emblématiques, parcours de pêche, itinéraire de canoë, le tout illustré par tes photos en grande majorité. Avec le nouvel ouvrage de Mathieu Mercier, Partez à la rencontre du versant méditerranéen. C'est paru aux éditions Arca. Et le 24 mai, à partir de 10h, vous pourrez, auditeurs, auditrices, échanger, vous faire dédicacer ce livre, Gorges et rivières des Cévennes aux Garrigues versant méditerranéen dans l'espace causerie à la maison du parc, à la maison du tourisme et du parc national des Cévennes. On a été complet, je pense, Mathieu.
Ben, merci beaucoup, Ben.
Merci à toi.
Merci pour tes très bonnes questions.
Merci à toi et longue vie à ce livre que j'ai personnellement adoré. À très bientôt.
Bien. Merci, à bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cet instant des Bartas. On se retrouve très vite. En attendant, ne zappez pas, restez bien sur le 107, on n'y est pas trop mal. Ciao. We'll be right back.